Je pense que nous avons réussi à peu près à finir tous de déjeuner. Il y a encore quelques personnes qui arrivent, donc j'attendais encore que la salle se remplisse, mais comme on a déjà laissé passer 5 minutes et que l'expérience me prouve qu'on n'a jamais assez de temps pour le débat, on va donc commencer maintenant. Alors, comme je disais dans la coulisse, j'ai à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle à vous annoncer. La mauvaise nouvelle, qui est quand même la plus mauvaise, c'est que Jean-Paul Fitoussi ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Et la bonne, c'est que Guillaume Duval non plus ne peut pas l'être et que c'est moi qui le remplace, Philippe Frémaux, donc directeur de la rédaction d'Alternatives économiques. Alors, à quelque chose parfois malheur est bon, c'est-à-dire que ça va nous donner aussi sans doute plus de temps pour parler ensemble d'un sujet qui est évidemment complètement central dans le moment que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai que après la chute du mur, nous avons vécu pendant quelques années iréniques où nous avons pensé que la démocratie de marché allait s'étendre à l'échelle du monde entier. Et George Bush lui-même a pensé qu'en bombardant ici et là, il allait étendre le champ de la démocratie partout où les bombardiers américains laisseraient leurs traces. Et puis, c'est vrai qu'à la fois différentes difficultés qui sont apparues dans le monde et la crise dans laquelle nous vivons maintenant depuis plus d'un an et demi, même si elle s'est accélérée au cours des 6 derniers mois, nous montre que le capitalisme, en dépit de différentes vertus qui peuvent être les siennes, peut être aussi une mécanique porteuse de risques importantes pour la cohésion sociale, pour le lien social et pour tout ce qui est nécessaire au maintien des systèmes démocratiques dans lesquels nous vivons. Donc la question crise du capitalisme et avenir de la démocratie nous paraît particulièrement pertinente. Alors je pense que, sans vouloir parler pour André Orléans et Laurence Fontaine, je pense que aucun de nous trois n'a la prétention à avoir la réponse définitive à la question qui est posée dans l'intitulé de notre réunion. En revanche, je pense qu'avec vous tous, on partage l'idée que c'est effectivement une question centrale. Et donc, nous allons essayer d'y apporter, en tout cas, quelques briques qui nourriront le débat qui va nous réunir ensemble pendant la fin de cette séance. Donc, Laurence Fontaine est directrice de recherche au CNRS. Elle est l'auteur notamment de « L'économie morale » qui est paru chez Gallimard l'an dernier. Et elle va intervenir tout d'abord pour revenir en longue période sur le lien qui s'établit entre le mécanisme fondamental qui est au cœur du capitalisme, qui est le marché, et la question démocratique. Et c'est vrai, je dirais, par un point d'humour, hein, que jusqu'à il y a 6 mois, on n'osait plus dire capitalisme. Non. Même dans Alternatives économiques, on se disait quand même capitaliste, ça faisait un peu Besancenot, grand capital, pour les plus vieux d'entre vous, ils se souviennent de Georges Marchais, voilà, avec 3 R. Et donc, on parlait de l'économie de marché, c'était plus propre, le marché, c'était juste un mécanisme, système d'allocation des ressources. Bon, alors les économistes les plus critiques, un peu comme André Orléans, disaient que c'était pas toujours optimal dans toutes les configurations, qu'il fallait quand même l'organiser, le réguler, mais enfin, globalement, l'économie de marché, c'était ce dans quoi on vivait. Et puis, c'est vrai que depuis 6 mois, on a découvert que derrière l'économie de marché, c'était bien le capitalisme qui était en cause, avec aussi ses errements, les inégalités qu'il porte, les mécanismes inégalitaires que peut porter sa dynamique quand elle n'est pas encadrée comme on le souhaiterait. Donc, et que le marché et le capitalisme sont consubstantiellement liés, et donc c'est Laurence Fontaine qui va nous en parler. Et puis ensuite, ça, il reviendra André Orléans, qui est directeur de recherche en économie à l'École des hautes études en sciences sociales, qui a écrit de nombreux ouvrages sur les questions d'économie financière. Là, il est cité pour La monnaie entre violence et confiance, qui est paru chez Odile Jacob, qu'il a coécrit avec cet autre spécialiste de ces questions, qui est Michel Aglietta. Et donc, André Orléans reviendra pour nous sur les questions qui ont été posées par cette crise financière sur le plan, effectivement, de la régulation de toute la dimension financière. Et puis ensuite, j'essaierai d'ouvrir un peu sur quelques perspectives que soulève cette crise comme interrogation pour la démocratie. Et nous aurons ensuite notre débat. Donc je donne tout de suite la parole à Laurence Fontaine pour une vingtaine de minutes.
Oui, merci. En fait, je voudrais partir de la manière dont je pense la démocratie. Je la définis non pas tant à partir de ses institutions, bien qu'évidemment les institutions soient absolument essentielles, mais à partir de ses objectifs. Et pour moi, la démocratie, c'est la capacité de chacun à participer à la vie publique, c'est la reconnaissance de chaque individualité et c'est la volonté d'aider chacun à être un acteur de sa vie. Alors, à partir de là, comment le marché s'inscrit-il dans ces buts que j'assigne à la démocratie? En fait, je suis une historienne, j'ai travaillé sur l'Europe moderne, c'est-à-dire à l'époque 16e, 18e siècle, à l'époque où la France vivait dans un régime d'économie politique féodale. Et ce dont je me suis rendu compte en travaillant sur cette époque, c'est qu'il y avait une économie féodale, c'est-à-dire une économie à statut. Les aristocrates étaient les gens qui possédaient le pouvoir, qui régulaient tout. Et il y avait à côté une économie de marché qui était en train d'essayer de se développer petit à petit. Et cette économie a mis un nombre de siècles absolument effrayant avant d'arriver, après la Révolution française, à mettre à bas l'économie féodale et à prendre le pouvoir, entre guillemets. Alors je vous dis ça parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir qu'en fait on vivait dans un système qui était double, qui avait deux économies politiques, et c'est quelque chose que je trouve aussi extrêmement parlant si on pense au monde contemporain et aujourd'hui. Mais donc, dans l'économie ancienne, ce qui m'a frappé aussi en regardant l'économie de marché, c'est de me rendre compte que, par exemple, j'ai pris l'exemple de comment les gens achetaient. Alors, un aristocrate doit perpétuellement montrer que son statut est plus élevé que celui des autres. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas marchander, parce que tous les marchés, et à l'époque moderne, tous les marchés étaient des marchés de marchandage, dans la mesure où on connaissait, c'était très difficile de connaître les qualités, les objets n'étaient pas fixés dans leur qualité, dans leur poids, dans leur mesure, comme aujourd'hui. Et donc, du coup, les gens devaient marchander. Mais pour marchander, il faut être des égaux. Et donc, un aristocrate ne peut pas marchander, ce qui fait qu'un aristocrate fixe les prix. On lui donne, par exemple, un mémoire des travaux qu'on a fait dans son château, il va dire « rabattez 10%, rabattez 20%, et puis il va payer ce qu'il voudra payer. » Alors qu'il ne va jamais respecter les contrats. C'est pour lui quelque chose qui est extrêmement difficile. Et donc, c'est déjà première valeur de l'économie de marché, contrairement, à mon sens, à ce que beaucoup disent, soit qu'elle a que des mauvaises valeurs, soit qu'elle est neutre. Non, elle n'est pas neutre. Elle demande une égalité de statut pour pénétrer dedans. Deuxième chose, je me suis rendu compte que toutes les femmes, et dans l'époque moderne, les femmes étaient en général des mineures, c'est-à-dire qu'elles étaient, il y avait bien sûr des variations selon le cycle de vie des femmes, mais en gros, elles n'avaient droit, et c'est le mari qui gérait leur argent, etc. Et je me suis rendu compte qu'il existait une catégorie qui était bien plus privilégiée que les autres, et qui était la catégorie de la femme marchande. Et la femme marchande, il suffisait qu'elle fasse du commerce publiquement, parce que si son mari ne voulait pas qu'elle en fasse, il lui aurait interdit. Donc le simple fait que la femme pouvait vendre voulait dire qu'elle était une femme marchande. Ce faisant, elle avait droit à un statut qui était le meilleur des statuts de toutes les femmes, parce que pour faire du commerce, il faut avoir le droit de posséder quelque chose, il faut avoir le droit de le défendre, il faut avoir le droit de le vendre, tout droit que les femmes en général, à l'exception des veuves, ne pouvaient pas faire dans l'époque ancienne. Ce qui fait que le statut de la femme marchande est quelque part un statut qui a aidé les femmes à gagner en autonomie. Alors, si je me penche aussi du côté des femmes dans le monde contemporain non européen, on se rend compte aussi que dans toutes les sociétés patriarcales, les femmes n'ont bien évidemment pas leur mot à dire, mais que, de la même manière, si elles arrivent à pénétrer dans le marché, elles arrivent à gagner en autonomie. Si je prends l'exemple de l'Inde, par exemple, où les femmes sont toujours des mineures, il faut imaginer le couple comme un couple qui est fait de coopération et de négociation. C'est-à-dire qu'une famille, il y a un bien de la famille. Une femme travaille aussi pour le bien de la famille et pas seulement pour son bien personnel. Et c'est toujours ces deux niveaux qu'il faut envisager. Et quand une femme se met à gagner de l'argent à l'extérieur, à la fois elle gagne en autonomie, mais elle gagne aussi pour le bien collectif et le bien de la famille. Et les hommes s'en rendent compte. Et du coup, ça leur permet d'augmenter leur pouvoir de négociation. J'ai lu récemment l'histoire de Mauritaniennes, c'est 5 ou 6 Mauritaniennes, qui ont fait une petite association entre elles, qui se sont ouvert des boutiques en Mauritanie, qui sont parties à Dubaï pour acheter des marchandises en envoyant celles dont le mari était le moins grognon et qui avait le moins d'enfants. Et elles achetaient quantité de sacs, de foulards, de tout ce que vous voudrez. Elles mettaient tout ça dans des conteneurs, le faisaient revenir à Nouakchott et ensuite le distribuaient, le vendaient, se le partager et aller le vendre en boutique. Et en fait, elles gagnaient tout à fait correctement leur vie avec ça. Et une d'elles expliquait que quand son mari a vu qu'elle pouvait acheter une voiture, qu'elle pouvait améliorer vraiment l'ordinaire de la famille, de l'hostilité qu'il avait au départ en disant « ma femme ne fera pas ça », il arrivait un intérêt et une reconnaissance. Donc, c'est grâce au marché que ces femmes sont arrivées. Si vous regardez aussi l'Arabie Saoudite, vous verrez que les femmes ne cherchent pas à avoir des droits politiques tellement, parce que pour le moment c'est trop contraignant, mais qu'elles essayent aussi de rentrer dans le marché, de faire des écoles de commerce et de négocier plus de liberté à travers le marché. Alors un autre élément aussi que j'avais vu dans l'Europe moderne, c'est que les pauvres profitaient grandement du marché dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on voyait que si on faisait des analyses des degrés d'endettement, c'est ça que j'avais fait, des degrés d'endettement, on se rendait compte que ceux qui habitaient près d'une ville où il y avait des possibilités d'entrer dans le marché, ceux-là s'en sortaient mieux que ceux qui vivaient exclusivement du salariat ou qui vivaient dans des campagnes enclavées. Et donc, c'est toujours la même chose, c'est l'initiative, la possibilité de développer des initiatives et donc de faire de l'argent au niveau individuel. Et de la même manière, si on regarde aujourd'hui avec la crise, on se rend compte de nouveau qu'il y a une énorme demande de marché que l'on peut voir à travers tous les vide-greniers qui se multiplient partout en France et ailleurs, que l'on peut voir aussi avec le développement énorme de l'activité commerciale sur Internet, qui ne cesse de grandir, que l'on voit aussi dans le développement du microcrédit, où il y a une très forte demande de microcrédit. Et d'ailleurs, dans l'Europe moderne, je m'étais rendu compte que les femmes de la Halle vivaient en vendant des tas de petites bricoles et que les usuriers, parce que le problème, c'est que ce marché, évidemment, il faut du capital. C'est pour ça qu'économie de marché et capitalisme vont de pair, parce que très vite, le marché nécessite du capital. Des usuriers le leur prêtaient et ils leur faisaient jurer, comme le fait les banques de microcrédit et la Grameen Bank en particulier, solidairement d'être responsables toutes les unes par rapport aux autres. Il les installait dans une pièce avec un crucifix, un lit, il se mettait là et il leur faisait jurer devant le Christ qu'elles rembourseraient toutes les unes pour les autres. Et les récits qui racontent ça disent que les femmes se mettent à pousser des cris affreux en disant qu'elles vont étrangler celle qui ne sera pas, qui ne répondra pas. Donc voilà pourquoi je pense que l'économie de marché n'est pas quelque chose qu'il faut jeter comme ça, sans a priori, comme beaucoup de gens finalement le font, et qu'il faut au contraire réfléchir à qu'est-ce que c'est que le marché. Par exemple, au XIXe siècle, on voit que l'augmentation des règles d'hygiène, l'augmentation des institutions sur les marchés a chassé du marché les plus pauvres. Et c'est ce qu'on voit aussi partout. On voit que finalement, très rapidement, les pauvres sont chassés des marchés. Et donc, la chose à laquelle il faut réfléchir, c'est comment démocratiser le marché. Comment faire en sorte que les pauvres qui ont envie d'accéder au marché puissent accéder au marché. Alors ça, c'est la première chose que je voulais dire. L'autre chose aussi, et qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que développer le marché qu'on pourrait imaginer en multipliant le microcrédit, ça n'est pas suffisant, parce que le microcrédit, parce que pour rentrer dans le marché, il faut non seulement avoir de l'argent, mais il faut un savoir-faire, il faut un pouvoir-faire, donc le pouvoir-faire, c'est tous les droits égaux, un savoir-faire, et ça, c'est de l'éducation, donc ce sont des biens premiers, comme on dit, et il faut assez souvent aussi un réseau de relations. Et donc, l'autre intérêt du marché, c'est qu'il aide à développer toutes ces capacités et tous ces biens premiers que les, par exemple, moi j'ai travaillé sur les montagnes d'Oisans ici, sur l'école Porter, avant de travailler sur ce sujet-là. Et là, je me suis rendu compte que toutes les montagnes qui nous entourent, c'était les lieux où il y avait les plus hauts degrés d'alphabétisation. Pourquoi ? Parce que c'était des montagnes marchandes, parce qu'il y avait tous ces colporteurs qui partaient, et donc cela appelle. Là, j'ai lu récemment une dernière expérience en Inde, des banques qui veulent essayer de développer la banque par téléphone, et donc apprendre aux pauvres à gérer leurs comptes et à avoir des comptes par téléphone. Et ça sécrète aussi un besoin d'apprendre à lire, à écrire, et tous ces besoins et toutes ces envies sont pour moi facteurs de démocratie. Donc le troisième point que je voulais développer, c'est donc qu'il faut regarder ce que le marché sait faire. Il est idéal pour développer l'initiative individuelle, mais aussi regarder ce qu'il ne sait pas faire et ce qu'il ne doit pas faire. Alors ce qu'il ne sait pas faire, c'est s'occuper des biens collectifs. Le marché, c'est un instrument individuel essentiellement. Et donc les biens collectifs, il y a beaucoup de biens collectifs, il faut s'en remettre à d'autres institutions qui vont s'en occuper, comme l'éducation, comme la santé. Ça, c'est quelque chose que le marché ne fait pas très bien, et donc il faut le voir autrement. L'écologie aussi, s'occuper des biens de la planète, le marché n'est pas très doué pour faire ces choses-là, donc il faut le savoir. Il y a un deuxième point qu'il faut vraiment comprendre avec le marché, c'est que le marché... il ne sait s'occuper que de la demande, c'est-à-dire vous avez quelque chose à donner, ça va marcher très bien. Mais si vous n'avez rien, il ne peut rien faire pour vous. Et c'est une des raisons pour lesquelles, depuis qu'il y a des systèmes d'allocation de sécurité sociale qui sont absolument nécessaires, on n'a plus de famine dans les pays européens, parce que la solidarité nationale donne aux gens de quoi entrer dans le marché. Si on ne leur donne pas de quoi entrer dans le marché, ils vont y entrer en vendant leur corps, leurs organes, leur vie, leurs enfants, toutes choses qui sont, par définition, des biens qui ne sont pas à vendre, dans la mesure où il faut remettre au centre l'individu. C'est pour ça que j'ai commencé par cette définition de la démocratie comme étant une définition, en quelque sorte, des droits de l'homme. Et donc, là aussi, ce sont des choses qu'il faut sortir du marché. Donc, Et la dernière chose, le dernier point que je voulais développer, c'est qu'il ne faut pas non plus être angélique. Il faut se rendre compte que dès qu'il y a une ouverture, dès qu'il y a une possibilité de tricher, tout le monde triche, riche comme pauvre. Et que du coup, il faut aussi, en quelque sorte, judiciariser le marché, comme tous les marchés. Et par exemple, si vous étudiez l'histoire des marchés, j'ai étudié celle des marchés alimentaires, vous voyez qu'au XVIIe siècle, dans les marchés alimentaires de grains, de tout ce que vous voudrez, il y a des séries de règlements pour expliquer aux gens, vous devez avoir des balances que vous tenez à un mètre de vous, vous devez les avoir neuves, vous ne pouvez pas les ramener chez vous, vous devez avoir des mesures de contenance qui sont vérifiées, et il y avait sans arrêt des gens pour vérifier comment se passait le marché. Parce que même un petit marché de commerce alimentaire, dès qu'il y a possibilité de tricher, les gens vont tricher dans ce marché. Donc, pour terminer, je dirais que ce que j'ai trouvé le plus étonnant, c'est de penser que les marchés financiers, on ait pu envisager de les déréguler, compte tenu du fait qu'à ce moment-là, c'était bien évident que les gens qui avaient possibilité de tricher ne s'en priveraient pas. Et donc voilà, les points que je voulais développer, c'est le marché n'est pas sans valeur, il porte des valeurs, et des valeurs qui sont intéressantes, mais il ne peut pas tout faire, et il faut savoir aussi que les hommes utilisent le marché et que les hommes sont tous à la fois bons et mauvais et que d'une certaine manière, comme pour toutes les activités humaines, il faut les régler.
Bon, Laurence Fontaine a fait une habile transition à la fin de son intervention pour introduire André Orléans. Je te donne tout de suite la parole, donc pareil. Merci. Pour une vingtaine de minutes.
Merci. Alors le sujet est effectivement très vaste, crise du capitalisme et avenir de la démocratie. Et donc je ne voulais pas, j'ai peur d'un peu décevoir votre attente. Moi je vais traiter, donc c'est un sujet très vaste, c'est-à-dire qu'il y a des composantes sociales, écologiques, morales, etc., dont je suis tout à fait conscient, mais ce que moi je connais le mieux ou le moins mal, c'est les questions financières et monétaires. Donc je vais et comme évidemment elles avaient un peu d'importance heureusement en la matière, je vais me surtout centrer sur cette dimension de la crise financière et voir comment on peut en sortir et quelles sont les réformes qui sont posées aujourd'hui et en quoi elles constituent ou non un avenir de la démocratie, quel système économique on veut. Donc j'ai bien conscience que je vais laisser beaucoup de choses de côté qui sont peut-être plus importantes que ce que je vais dire, mais je vais parler de ce que je connais et c'est toujours mieux ainsi. Il me semble un point qui motive aussi cette intervention, c'est que je crois que ce n'est pas sans intérêt. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, il me semble, un malentendu, une confusion sur à la fois le diagnostic de la crise financière et en conséquence la nature des réformes à appliquer. Je pense qu'aujourd'hui le terme de régulation, qui est très à la mode, à juste titre, moi aussi je suis pour la régulation, mais que le terme régulation masque, enveloppe des stratégies qui sont très différentes. Et qu'il y a là une confusion dangereuse parce qu'il y a plusieurs conceptions justement du développement économique qui peuvent se cacher derrière ce mot régulation. Pour entrer dans le vif du sujet, je dirais à mes yeux, il y a aujourd'hui deux thèses qui s'opposent, même si c'est pas dit souvent comme ça. Il y a deux diagnostics qui s'opposent, et vous allez voir tout de suite lequel de ces diagnostics. À mon intérêt. Le premier diagnostic, il me semble, au fond, ça rejoint d'ailleurs un peu ce que vient de dire Laurence Fontaine, mais plutôt l'accent sur les motifs dans la crise qui sont en quelque sorte extérieurs un peu au marché, comme en particulier les thèmes les plus forts sont ceux de la cupidité, ceux de la tricherie. Donc il y aurait eu des fautes morales qui auraient perturbé les phénomènes de marché. Évidemment, je sais bien que ces phénomènes-là sont en cause, mais la thèse que je vais développer, c'est qu'en fait, il faut regarder les choses autrement, et c'est le mécanisme lui-même de marché qui est en cause, c'est pas tellement ça. Et donc, dans cette première thèse donc, qui me semble dominante, c'est-à-dire c'est plutôt l'extérieur, vous avez tous entendu cette question des crédits, des produits structurés qui sont très opaques, on ne sait pas évaluer, un certain nombre d'acteurs n'ont pas bien régulé, etc. Toutes choses qui sont pour partie vrai, mais qui, à mon sens, et c'est ça le point que j'essaye d'apporter aujourd'hui, à mon sens, ne sont pas fondamentaux. Ce qui est fondamental à comprendre, c'est la nature du système financier et de son instabilité. Parce que, selon la première thèse, au fond, la première thèse conduit à exonérer les mécanismes financiers eux-mêmes de la crise, puisque les causes de la crise sont à l'extérieur, dans la manière dont les produits ont été dessinés, dans la manière dont les acteurs se sont conduits, dans la manière dont les régulateurs ont mal régulé. Donc c'est toujours l'extérieur du marché qui est en cause, à tel point que, c'est ça mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, comme cette analyse domine, aujourd'hui on propose un système de régulation qui en fait ne remet pas en cause la primauté du marché financier lui-même, à l'échelle même planétaire, comme le processus d'allocation de la finance. On dit ça continue à être bien, simplement ce qu'il faut c'est le faire en sorte qu'il fonctionne de manière tout à fait correcte et d'éviter les...
Vas-y. Tu veux dire la façon dont le crédit est réparti entre l'ensemble de ses usages?
Absolument. Donc le crédit, non seulement d'ailleurs le crédit, j'avais en tête aussi les droits de propriété sur les marchés des actions, enfin à la fois la finance et le capital, comment tout ça est réparti à l'échelle planétaire. Donc il me semble que c'est ça aujourd'hui, au fond, la thèse dominante. On essaye de reconstruire l'ensemble des acteurs, et Dieu sait s'il y en a, vous avez vu la liste du G20 est en effet impressionnante par l'ensemble des choses qu'il faut changer, les agences de notation, la régulation, etc., etc. Il y en a toute une liste. D'ailleurs, on peut se demander à un moment donné, et au fond c'était ça mon interrogation, c'est un peu comme si votre garagiste vous disait que dans votre voiture, les pneus, les freins, tout est mauvais, et proposait de réparer. Dans ce cas-là, on aurait tendance à dire qu'il faut peut-être mieux changer de voiture, si tout, comme c'est le cas aujourd'hui, rien ne fonctionnait, parce que tout a été rendu instable. Donc c'est ça mon point. Ce que j'essaierai de montrer, c'est que donc il y a un enjeu aujourd'hui dans le diagnostic même de la crise. Et mon point, donc, c'est quoi mon point? C'est que c'est le mécanisme de marché lui-même qui est en cause. Pour quelle raison? L'idée centrale des économistes, c'est que les marchés s'autorégulent. C'est ça la grande idée, c'est que c'est la grande force de nombreux marchés, c'est que si vous les laissez à eux-mêmes, eh bien, entre les offreurs et les acheteurs, tout va finir par se passer plutôt bien. Il va pas avoir de, les prix vont pas commencer à dégénérer à la hausse ou à la baisse. Les choses vont s'autoréguler. C'est ça l'idée très forte des marchés et qui fait que justement on peut proposer le marché comme une alternative, par exemple à l'État, qui peut être beaucoup plus compliqué à faire des accords, etc. Là, c'est beaucoup plus simple, ça s'autorégule. Et le principe de l'autorégulation, excusez-moi de parler économiste, mais je pense que tout le monde connaît un peu ça, c'est le principe de l'offre et la demande, c'est-à-dire que quand les prix augmentent, eh bien quand son prix augmente, la demande baisse, et comme la demande baisse et que l'offre aussi augmente, eh bien le prix a tendance à pas aller très loin. Donc si le prix d'une table augmente énormément, vous allez en acheter une autre, point final, il y a des forces qui ramènent le prix des marchandises vers leur niveau normal. Donc ça, c'est l'idée centrale de l'économie. Excusez-moi. Il me semble que cette idée est juste, mais elle est juste pour les marchés de biens ordinaires, au moins pour les marchés de biens ordinaires, les tables, les chaises, etc. Mon problème, c'est que quand on s'agit de marchés financiers, ces processus d'autorégulation ne fonctionnent pas. Dire ça, c'est dire une thèse très fondamentale, parce que toute l'idée... Il faut avoir ça en tête. Toute l'idée aujourd'hui dans le système, c'est que ça s'autorégule. C'est parce que ça s'autorégule qu'on peut laisser les marchés fonctionner tout seuls, qu'on peut croire dans leurs prix, qu'on peut les faire s'étendre. C'est cette idée-là qui est au cœur de la finance moderne, ce qu'on appelle techniquement l'efficience des marchés financiers. Si on montre, comme je vais essayer de vous le démontrer en une seconde, qu'en fait, il y a des facteurs d'instabilité intrinsèques au processus de prix, que les marchés, au contraire, ont tendance à ce que les prix augmentent énormément ou que les prix baissent énormément, dans ce cas-là, il ne suffit plus de changer les régulateurs à droite ou à gauche, parce que si vous changez les régulateurs à droite ou à gauche, le mécanisme, lui, reste le même. Et c'est d'ailleurs, à mon sens, ce qui explique que les crises sont totalement récurrentes dans l'histoire de la finance de marché. Parce que dès que vous avez un système de finance de marché, ces processus se reproduisent. Donc vous voyez bien, il y a bien ici deux thèses en présence qui conditionnent l'avenir du capitalisme. Soit vous pensez que le marché est bon et que c'est tout autour que ça s'est mal passé et qu'on va le réguler par l'extérieur, en quelque sorte. Soit vous pensez que le marché est intrinsèquement instable, et alors ça sert à rien. Évidemment, il vaut mieux que les gens soient moraux, que les choses soient plus transparentes, etc. Mais ça ne changera rien au processus. Donc c'est ça mon idée. Je peux simplement l'illustrer par le marché pour vous donner le sens de cette proposition d'instabilité. Prenons le marché de l'immobilier, qui est le marché qui a été à la racine de la crise actuelle. On va bien voir, en prenant cet exemple, comment justement il est instable. Qu'est-ce qui se passe dans le marché de l'immobilier? Les prix ont augmenté de manière gigantesque. C'est ce qu'on appelle une bulle. Les prix ont augmenté de manière gigantesque, et ça dans de nombreux pays. Donc il y a ce qu'on appelle une bulle fantastique dans les années des années 2004 aux années 2007. Des prix 150% d'augmentation, 200% d'augmentation, c'est vrai à New York, à Paris, à Londres. C'est une bulle fantastique. Eh bien, ça précisément, c'est incompréhensible dans le cadre de l'autorégulation. Parce que l'idée d'autorégulation, c'est que si le prix des logements augmente, il devrait avoir des forces très puissantes qui fait que les agents soit font autre chose, soit qu'on produise plus de logements. Et ce qu'on constate, c'est un fait, c'est que ça n'a pas fonctionné ainsi. L'efficience, l'idée d'efficacité, elle s'est révélée fausse. Les prix ont augmenté, ils ont continué à augmenter, et il a fallu attendre quelques années avant que des contre-forces apparaissent. Donc on voit bien ici qu'il y a une instabilité. Et pour quelle raison? Pour une raison qui est assez intuitive à tout le monde, c'est que quand le prix de l'immobilier augmente, c'est vrai que votre logement est plus cher. Mais en même temps, ceux qui possédaient des logements jusqu'à là ont gagné de l'argent. Ils ont eu des plus-values parce que le prix de leur logement a augmenté. Ils ont gagné de l'argent. Ils ont gagné d'autant plus d'argent que le prix a augmenté. Et ce facteur-là attire des nouveaux investisseurs. C'est des gens qui veulent acheter, comme pour tout actif, pour avoir du rendement. Comme le prix augmente, ils se sont dit, tiens, mais pourquoi pas moi? Je vais acheter du logement, puisque j'ai vu que le logement avait ses prix augmentaient. Donc les propriétaires gagnaient de la rentabilité, ben moi je vais faire pareil. C'est le cœur même de la logique financière d'essayer d'aller à l'endroit où on fait du profit. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont été sur le marché, et donc contrairement à la thèse de l'autorégulation, quand le prix a augmenté, la demande a augmenté, parce que les investisseurs ont été attirés par ces produits dont le prix augmente. C'est un truisme, peut-être beaucoup d'entre vous l'ont déjà pensé, mais c'est très important à avoir ça en tête, parce que s'il en est ainsi, si on a cette possibilité que quand les prix augmentent très fort, la demande augmente très forte, ou bien au contraire, quand les prix sont très très bas comme aujourd'hui, selon la théorie de l'autorégulation, tout le monde devrait se précipiter pour acheter ces actifs qui sont très très faibles. Or, plus les prix sont bas, moins il y a de gens qui achètent. On a le même mécanisme à la hausse, on l'a à la baisse. Donc, si vous avez ces thèses, d'abord, voyez, vous avez un autre regard sur la crise financière. La crise financière, évidemment, n'est pas liée centralement aux produits structurés, à l'opacité, etc. Tout ça a évidemment eu son rôle. Je n'ai pas le temps de le développer, ça a eu un rôle. Mais centralement, le mécanisme, c'est le mécanisme de prix lui-même qui produit ces instabilités de manière récurrente. D'où la crise 2000 des subprimes, d'où la crise Internet, qui était exactement la crise de la bulle Internet, qui était exactement de ce même système où, vous vous souvenez, les actions de nouvelles technologies ont augmenté de manière très très élevée, et à nouveau sans force de rappel, d'où la crise asiatique où les prix ont baissé, etc. etc. Donc ici, si on fait ce diagnostic-là, on a un problème par rapport au projet du capitalisme financiarisé. Parce que le projet du capitalisme financiarisé depuis, disons, le début des années 80, son idée, c'est faire un marché financier planétaire. Quasiment réussi, c'est-à-dire de faire en sorte qu'au niveau planétaire, il y ait un mécanisme central de marché, comme je viens de le décrire. Non seulement, là, il ne s'agit pas de l'immobilier, il s'agit des actions, des obligations, des crédits, mais on ne rentre pas dans les détails, on y viendra peut-être dans la discussion, mais le principe conceptuellement est exactement le même, donc de faire qu'il y ait un marché financier unifié au niveau planétaire. Or, à mon sens, c'est précisément là d'où est venue la crise. Le fait qu'il y ait eu cette unification, cette interconnexion de l'ensemble des marchés avec ce système très instable a fait qu'une crise tout à fait locale, parce que les subprimes, c'est très très peu, c'est des crédits immobiliers, donc comme vous le savez tous, à des particuliers qui n'ont pas une très bonne histoire de crédit. Mais ça, du point de vue de la masse du capital, c'est vraiment dérisoire. Et la question est de savoir comment un incident aussi faible a pu créer une dévastation planétaire. Et la raison, c'est cette mise en résonance à travers l'interconnexion des marchés. Tout le monde en possédait un peu. Ça a créé des phénomènes de contagion, de crainte et de défiance de l'ensemble des acteurs. Je résume un peu vite, mais c'est ça l'idée, qui a fait qu'au départ, quelque chose qui était assez de faible ampleur a dégénéré dans quelque chose de très très fort. Et d'ailleurs, ceci même est une preuve à nouveau de l'instabilité. Ça, c'est typiquement un système instable, un système où vous pouvez un tout petit peu vous envoyer une toute petite choc et l'immeuble s'écroule. Ça prouve qu'il y a un problème dans sa conception. On aime mieux que quand il y a des chocs, ils résistent ou qu'il faut. Vous voyez, c'est bien l'idée d'instabilité qui est dans ce système. Pourquoi ? Parce que l'interconnexion fait que l'ensemble des acteurs financiers sont devenus très homogènes. Qu'ils achètent à peu près tous les mêmes choses, qu'ils réagissent à peu près tous de la même manière. Et donc, quand il y a eu ce choc, il y a eu cette perturbation massive dans le système. Donc, mon point de vue, c'est qu'il faut un autre type de régulation. La régulation doit s'attaquer à la question de l'interconnexion des marchés. À mon sens, c'est là qu'est le problème. Il faut, d'une manière ou d'une autre, faire en sorte que ce processus d'instabilité soit réduit. Alors, par exemple, prenons la crise, les crises immobilières, par exemple. Les crises immobilières, avec des crises comme celle qui a causé la crise actuelle, on en a connu longtemps. C'est un truc très, très classique, des crises immobilières avec une bulle du crédit. Mais normalement, ça ne crée pas la crise qu'on connaît. Ça crée souvent des grandes crises. Hein, c'est parce que l'immobilier, c'est un gros secteur. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que, jadis, c'était juste le secteur financier immobilier qui était touché. Les autres acteurs, étant donné qu'il y avait il y avait moins d'interconnexion, donc les agents étaient plus liés à des métiers spécifiques, les autres acteurs n'étaient pas touchés. Donc en 94, par exemple, dans la crise américaine, c'est ce qu'on appelle les savings and loans, c'est ces institutions qui étaient plutôt liées à l'immobilier caisses d'épargne, qui ont été touchées, mais pas l'ensemble du système. Donc la question, c'est ça. Et à mon sens, ce que je propose, c'est cette idée de cloisonnement, c'est-à-dire d'essayer de lutter contre l'interconnexion généralisée des marchés et revenir à des systèmes qui soient beaucoup plus cloisonnés, soit par métier, par exemple, je n'ai pas un plan tout préparé pour vous, mais... Je pense qu'il y a une autre stratégie que la stratégie qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une stratégie aujourd'hui, disons, de l'idée centrale dans la stratégie du G20, qui d'ailleurs fait beaucoup de choses, hein, dans la stratégie du G20, c'est la transparence. Il faut que ça soit transparent, qu'il y ait de la traçabilité, etc., etc. Mon idée, c'est plutôt qu'il faut segmenter les marchés, parce qu'on ne changera jamais leur instabilité, et ce qu'on peut faire en les segmentant, c'est qu'on en localise les effets négatifs. Vous me diriez, il y aurait une autre solution dont on peut discuter, c'est de les supprimer totalement. Évidemment, c'est une possibilité aussi dont on peut parler. Mais si vous pensez par ailleurs, ce qu'on n'a pas le temps de montrer, qu'il y a certains intérêts au marché financier néanmoins, à rendre les titres liquides, etc., alors il y a une solution un peu intermédiaire, celle que je propose, du cloisonnement qui garde des marchés mais qui les segmente de façon à éviter cette espèce de...
Tu peux expliquer en 15 secondes l'intérêt qu'il y a à rendre les titres liquides, si j'ai bien compris. D'accord. C'est-à-dire que l'idée qu'on peut se revendre les différents actifs entre acteurs économiques favorise la réallocation des ressources, donc favorise l'évolution éventuellement dans le bon sens de l'activité économique vers les activités qui se développent au détriment de celles qui sont amenées à ralentir. C'est ça que tu voulais
absolument
dire.
Absolument. Donc, je répète ce que vient de dire Philippe Frémaux, c'est qu'en effet, il y a un certain intérêt à avoir de la finance de marché, parce qu'elle rend liquide des titres qui seraient sinon immobilisés. Si vous prenez... qu'est-ce que c'est qu'un marché ? C'est un lieu où, par exemple, vous avez un droit de propriété sur une entreprise, une action. Si elle est totalement immobilisée, vous l'avez, point final. Mais si jamais vous avez un problème d'argent, vous avez beau avoir un titre de propriété ou n'importe quoi, quel crédit, vous ne pouvez pas le négocier. Donc, il y a un frein à l'investissement dans le fait que les titres soient totalement immobilisés. Donc, le fait qu'il y ait une certaine liquidité qui permette à des agents de pouvoir négocier des titres quand ils ont des problèmes, ça peut avoir un côté positif. Ça a immédiatement l'autre côté négatif, c'est que ça crée de la spéculation parce que ça crée des prix et ça crée les mécanismes d'instabilité dont je dis où les gens s'occupent des prix plutôt que de la réalité. Mais je reprends en fait une thèse qui était une thèse qu'on trouve chez Keynes, qui appelait ça le dilemme de la liquidité dans la théorie générale. Keynes, il est surtout connu du grand public à travers sa macroéconomie, l'idée du déficit budgétaire. Mais il y a un autre Keynes qui est moins connu, peut-être encore plus fondamental et plus original encore. L'autre, c'est déjà très bien. Mais c'est sur la question de la liquidité. Et donc, il parlait qu'il y avait un dilemme de la liquidité, exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire, il disait, la liquidité, c'est vrai que si on n'en avait pas, ça créerait, les acteurs ne prendraient pas tellement de risques parce qu'ils auraient peur de perdre tout, de ne pas pouvoir vendre. Mais en même temps, lui, il était parfaitement conscient que si on augmentait la liquidité, c'est-à-dire la négociabilité, eh bien, ça créait des phénomènes spéculatifs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il proposait que, par exemple, il y ait des taxes sur les transactions boursières, hein, la fameuse taxe Tobin vient de là, de façon à diminuer la liquidité. Donc, en fait, je me situe dans cette perspective. Il faut, à mon avis, la liquidité, contrairement à l'idée qu'on a, c'est-à-dire le fait de négocier tout, à tout moment, partout, a des effets négatifs. Et c'est alors qu'aujourd'hui, dans la thèse centrale de même des économistes, plus il y a de liquidité, c'est toujours mieux. Il faut en avoir toujours plus et c'est toujours mieux.
L'idée, c'est que le marché fonctionnerait bien s'il était totalement absolu.
Voilà. C'est ça. Plus il est liquide, en plus, plus il marcherait bien. Évidemment, là, ils ont quelques difficultés aujourd'hui avec ce qui se passe. Mais en fait, c'est que ça reste quand même le cœur de l'économie. Donc voilà, c'est ce point-là qui me semble important. Donc vous voyez, il est technique, mais il renvoie à cette question du cloisonnement et il ouvre une autre perspective par rapport à une autre forme de régulation. Il y a un point intéressant par rapport à la question de la démocratie, je voudrais le souligner, c'est que un des aspects très négatifs... Il me reste 5 minutes. Il y a un des aspects...
Est-ce que je peux juste me permettre de faire le rôle du candide, encore une fois? Quand tu parles du cloisonnement, je crois que par rapport aux décisions des régulateurs, tu peux quand même dire que toutes les dernières années ont quand même été marquées par des choix quand même de décloisonnement répété des régulateurs par rapport à ce qui avait été établi après la crise de 29, notamment à la suite de Roosevelt.
Enfin. Exactement. Oui, oui, c'est vrai, parce que le point important, c'est qu'on sait quand même que le cloisonnement marche bien. Le cloisonnement, en effet, si vous voulez, c'était le cœur de la politique de réponse à la grande crise. Le fait que, par exemple, les banques de dépôt n'avaient pas le droit de jouer en bourse. Donc, ça a permis d'éviter qu'il n'y ait aucune crise des banques de dépôt qui soit liée à de la spéculation. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on pourrait réutiliser de nos jours. Donc, cette idée d'un cloisonnement était venue de la grande crise et les systèmes étaient très cloisonnés. Quelqu'un qui fait du crédit hypothécaire, il ne pouvait pas faire du crédit à la consommation, celui qui s'occupait des entreprises, etc. Et tout le système, en effet, toute cette pression du capitalisme financiarisé, de la thèse de l'efficience, une thèse à la fois donc idéologique, conceptuelle, toute cette pensée libérale, ça a été de décloisonner au maximum. Donc maintenant, tous les acteurs peuvent faire à peu près tout sur tous les titres. Et donc, on en est arrivé à cette situation. Autrement dit, j'essaye de penser, au fond, à un retour d'une forme de cloisonnement que je ne peux pas décrire ici parce que j'en ai que les principes, mais qui sera adapté évidemment à la situation aujourd'hui présente. Et évidemment, c'est très, très important parce qu'on sait que lorsque le système a été comme ça, on n'a pas eu de crise pendant 30 ans. Il n'y a pas eu de crise bancaire entre 44 et 70-71. Donc quand le système était très cloisonné, évidemment, il avait des coûts, etc. Mais on n'a pas eu de crise. Il faut savoir ce qu'on veut. Évidemment, ça crée de la rigidité, mais on n'a pas de crise. Donc c'est cette idée-là que j'essaye de défendre. Et alors, oui, je voulais lier ça juste à la question des métiers et des valeurs. Parce que ce qui me paraît important dans le système actuel, c'est l'homogénéisation, si vous voulez, de la représentation du monde dans le prix financier. L'idée que, et ça c'est vrai de la planète financière, tout le monde a en tête le cours boursier, vous voyez ce que je veux dire, et ça devient le seul but. Et donc, il y a un problème. Là, il me semble qu'il y a une crise potentielle de la société parce que cet seul objectif ne peut pas intégrer l'ensemble de la complexité des sociétés humaines. On le voit tout de suite dans les entreprises où combien la politique de la valeur actionnariale peut être une politique destructrice du lien salarial parce que, précisément, elle s'occupe que de la valeur boursière et elle ne prend pas suffisamment le temps, elle ne valorise pas le fait de nourrir le travail en équipe, de faire du commun, d'avoir d'autres valeurs. Et elle a créé cette chose extraordinaire, entre guillemets, c'est ce management, c'est cette technocratie qui est passée, en quelque sorte, du côté des actionnaires, alors qu'avant, elle était salariée. Donc aujourd'hui, dans le résultat du 1 à 400 entre le salaire moyen et le salaire des PDG, ça a été l'effet de ça. Donc vous voyez, c'est cette idée d'homogénéisation. Et dans la finance, elle est évidemment atteint son but. On pense plus qu'à cette homogénéisation. C'est-à-dire tous les acteurs, ils se moquent au fond, comme vous le savez bien, de ce qu'est le support du crédit ou des actions. Ce qui importe, c'est uniquement la forme abstraite du rendement. C'est une espèce de victoire de Marx aujourd'hui, où c'est vraiment l'abstraction de la valeur, le capital se mettant lui-même en valeur, qui est devenu la seule représentation de l'ensemble du monde. Mais précisément, ça, c'est trop dégradé par rapport au tissu social. Le cloisonnement permet de réintroduire, si je me permets, permet de réintroduire justement ces valeurs locales. Je cite ça juste à la fin de réflexion. C'est-à-dire que puisqu'il n'est plus simplement dans l'abstraction, les gens ont des métiers. Hein, et comme ils ont des métiers, ils font plus n'importe quoi parce qu'ils ont un sens du métier bien fait. Ils ont un sens de « il faut donner du crédit immobilier ». Et ce n'est pas la fameuse histoire de cette dame hein, qui faisait du américaine qui donnait des subprimes le dimanche sur les parkings, donc qui se moquait totalement de ce qu'était le crédit hypothécaire et qui faisait simplement de l'argent. Donc, dans ces systèmes cloisonnés, il y a une espèce de possibilité de production d'éthique, en quelque sorte, professionnelle, qui permet de freiner un peu cette... ce que nous savons, nous connaissons tous, hein, cette poussée vers le rendement, vers l'abstraction du rendement, qui est si destructeur des liens sociaux spécifiques. Donc voilà, il me semble que le cloisonnement, c'est aussi, si j'essaie de vendre ces thèses, c'est aussi, au fond, fait partie d'un package général qui est de la transformation des valeurs. Comment est-ce qu'il faut introduire dans le système d'autres valeurs que simplement la valeur abstraite de la monnaie et de la finance, parce que la conduit à ça, en essayant donc d'enraciner les gens mais dans des métiers, c'est-à-dire d'avoir des contre-arguments quand on leur dit allons vers le rendement, spéculons, etc. Merci.
Allez. J'avais une dernière question de Candide avant que vous applaudissiez à nouveau. Parce que quand tu parles de je vais faire une traduction très, très pratique. Il m'est arrivé de demander à des journalistes de radio pourquoi vous annoncez toujours les cours de bourse tous les jours, par exemple. Parce que vous avez tant d'actionnaires parmi vos auditeurs à France Inter, je sais pas. Mais le problème, c'est que c'est la donnée économique qui change tous les jours. Je leur ai dit, mais vous n'avez pas compris que les choses vraiment importantes en économie, c'est précisément ce qui ne change pas tous les jours. Et bon, ils ont beaucoup de mal à comprendre ça. Et c'est vrai que derrière ce que tu dis sur le cloisonnement, il y a à la fois le cloisonnement qui permet de faire revenir les gens dans les métiers par rapport à cette abstraction du marché qui ramène la finance à quelque chose qui tourne en soi. Mais il y a aussi le rapport au temps qui est très important. Alors j'aimerais bien que tu en redises un mot parce que ça a été très vite. Et je pense que c'est quelque chose de. Quand tu dis dans le capitalisme de valeur actionnariale, on oublie le fait social. C'est-à-dire quand on est soi-même entrepreneur, bon, moi il se trouve que je dirige une petite entreprise de presse coopérative. Bon, on voit bien que construire une entreprise, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Construire du lien social, construire de la qualification collective, construire des gens qui ont envie de travailler ensemble, etc. Et le marché, de ce point de vue-là, dans son instantanéité, est quelque chose qui casse complètement cette réalité, qui est destructeur de valeur, de ce point de vue-là.
Et c'est, je crois qu'on ne peut pas trouver meilleur exemple dans ce que tu viens de dire, sur le fait que le marché a certainement, en particulier je pense que dans le secteur des biens ordinaires, dans lesquels on n'a pas ces instabilités dont je parle, la concurrence peut avoir certaines valeurs, mais que sinon, fondamentalement, il y a un problème de représentation des intérêts sociaux, parce que ce dont tu parles, c'est les intérêts sociaux, c'est comment on vit en groupe. Voilà, la démocratie, comment on fait un collectif, etc., avec la représentation de valeurs. L'idée, au fond, des libéraux, ça a été toujours d'essayer de penser que les deux étaient s'identifiaient, que, en quelque sorte, les valeurs individualistes que pouvaient motiver les stratégies spéculatives, au fond, permettaient le bonheur collectif. Mais je crois que non, la réalité, c'est qu'il y a un antagonisme. C'est que la représentation par les prix est trop pauvre par rapport à la réalité sociale. Et au fond, je pense à un auteur qui a dit ça, c'est Karl Polanyi, un grand auteur qui a travaillé sur une transition qui ressemble beaucoup à la nôtre. Qui pourrait ressembler à la nôtre. Il a pensé la fin du libéralisme de l'étalon or et la montée du dirigisme sous toutes ses formes, communiste, fasciste, New Deal, etc. Et il expliquait exactement dans les termes qu'on essaye d'avancer ici, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de révolte de la société devant l'abstraction de la valeur et que pour que les intérêts en quelque sorte sociaux, les intérêts profonds des sociétés, que les hommes mangent plutôt bien, que leur rapport à la nature soit plutôt satisfaisant, que l'organisation des entreprises soit plutôt mieux, était rentré à un moment donné, c'est ça son idée, en telle contradiction avec le mécanisme de prix que, en fait, le système avait explosé, et c'est son explication des années 30. Merci.
Alors avant de vous donner la parole, bon, comme Jean-Paul Fitoussi n'est pas là, je n'ai pas du tout de prétention, évidemment, de le remplacer. Mais en revanche, j'ai la chance de disposer du micro et donc de pouvoir occuper une partie du temps de parole qui lui aurait été réservé. Mais rassurez-vous, ça va être très court. Je pense par rapport aux deux interventions qui ont précédé, il y a une autre dimension qui nous interpelle tous aujourd'hui. Et donc, je voulais simplement la poser sur la table de telle manière qu'on ne s'interdise pas de l'aborder ensemble au cours du débat qui va suivre. C'est vrai que la forme qu'a pris la crise depuis l'automne 2008, notamment depuis l'explosion de la crise financière suite à la débâcle de Lehman Brothers, a eu pour effet de replacer complètement au centre du débat public les questions d'abord de qu'on appelle de la macroéconomie. C'est-à-dire c'est la récession qui nous touche, l'explosion du chômage qui va avec. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'interrogation, c'est plutôt à quand la reprise. C'est autour de ça que tournent les questions. Et c'est en partie c'est autour de ces thèmes-là, finalement, que s'interroge à l'instant André Orléans. Mais il faut se souvenir, si vous revenez en juin 2008, donc juste hier, les préoccupations majeures qui étaient les nôtres étaient d'abord des préoccupations liées au cours des matières premières, de l'explosion du pétrole, des émeutes de la faim qui se multipliaient dans les pays du Sud du fait des cours extrêmement élevés des céréales. Et donc, le paradoxe de la situation aujourd'hui, c'est que, de fait, nous sommes revenus dans une situation d'espérer un retour de la croissance et de s'interroger sur les modes de fonctionnement du capitalisme qui pourraient nous l'apporter, alors que reste devant nous et reviendra devant nous très vite les interrogations qui tournent autour de notre capacité à avoir un mode de développement qui soit réellement soutenable, un fonctionnement économique qui soit réellement soutenable. Et c'est vrai que l'interrogation, dès lors que cette soutenabilité est la condition de la démocratie dans nos pays et aussi surtout de la démocratie au niveau mondial, du fait des inégalités dans l'accès aux ressources qui existent et de la croissance et de la concurrence qu'il y a entre les différents États, la question de savoir si le capitalisme est compatible avec un régime qui ne soit pas un régime d'accumulation forcenée et indéfinie, qui soit le pendant du productivisme hier d'autres régimes. Je veux dire que c'est pas, de ce point de vue-là, l'histoire de l'humanité ne nous donne pas d'exemple satisfaisant en dehors d'un État stationnaire fort ancien. Et donc, ces questions-là restent totalement posées pour l'avenir. Et alors, je pense que c'est d'autant plus essentiel qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'exemple de pays qui ait réussi, même en sortant de la dictature du PIB, en adoptant d'autres indicateurs de bien-être qui soient plus complexes, il n'y a pas de pays qui ait réussi à améliorer la qualité de leur bien-être sans que, par ailleurs, leur empreinte écologique, c'est-à-dire le poids qu'ils font peser sur les ressources de la planète, est continuée à croître. Bon, vous avez des pays qui peuvent améliorer de manière importante leur bien-être sans pour autant que leur empreinte écologique croisse fortement. D'autres chez qui la relation est très différente. Mais en aucun cas, on a réussi à dissocier les deux évolutions. Or, c'est bien là l'interrogation auquel nous sommes confrontés si nous voulons laisser une planète vivante à nos enfants pour l'avenir. Voilà. Donc, c'était juste ce point qui me paraît central également sur l'interrogation capitalisme et démocratie. Tu voulais rajouter un point là-dessus ?
Je voulais juste rajouter en écoutant Philippe que la manière dont on décrit le monde, les concepts qu'on utilise pour le décrire sont des armes. Et d'une certaine manière, je vais prendre trois exemples pour arriver à ce que tu viens de dire. Si je pense par exemple au travail des femmes, le travail des femmes, bien souvent, n'est pas considéré comme un travail. On pense au travail, c'est le travail masculin, le travail qui rapporte de l'argent. À partir du moment, et donc du coup, le travail des femmes, outre qu'on leur en donne du travail, en plus du travail qu'elles font chez elles, c'est un travail qui, comme il est dévalorisé dans les systèmes de valeurs ambiants de la société, qui sont des systèmes de valeurs largement, enfin longtemps patriarcales, ça veut dire que les femmes seront moins payées. C'est une évidence des hiérarchies de valeurs qui sont induites par la manière dont on définit le travail, donc par les concepts. Deuxième exemple, la manière dont, et ça c'est un très beau livre, il y avait une journée organisée par la revue Esprit, c'était un des livres qui était discuté ce jour-là, et c'est dans ce livre, la personne qui l'a fait montrait que la manière dont on fait des comptabilités est aussi absolument essentielle. Si vous avez dans les comptabilités des entreprises actuelles, vous allez avoir tout ce qui concerne le capital qui est parfaitement documenté. Mais en revanche, vous n'aurez pas tout ce qui est l'intelligence grise, comme on dirait, ou cette production d'intelligence ne va pas apparaître dans les actifs. Donc si vous regardez ces comptabilités, vous vous dites, ben, c'est vrai que le capital, ça rapporte beaucoup plus que l'entreprise en elle-même. Et donc du coup, c'est aussi un des éléments qui pousse à fabriquer un capitalisme financier comme étant plus rentable, et il est seulement plus rentable dans la manière dont il est décrit. Et pour arriver à ce que tu disais, c'est la même chose avec l'empreinte écologique. Tant qu'on n'a jamais fait rentrer dans aucun bilan le coût pour la planète qui est un bien commun, c'est-à-dire un bien commun qui est approprié et qu'on ne fait pas inscrire dans les bilans comme étant un bien commun, c'est aussi là où il y a cette méconnaissance de ce problème. Et donc, tous les problèmes, finalement, ils apparaissent après un travail sur le langage, sur les catégories et sur les concepts qu'on utilise.
Donc, on va vous donner maintenant des paroles pour des questions, des interventions, des témoignages. Vous voulez bien lever la main, il y a des personnes qui vont circuler avec des micros. Donc, j'ai deux mains qui se sont levées tout de suite ici et une là. Bon, et puis ensuite, vers le fond de la salle. Essayez d'intervenir de manière assez courte, de telle manière que le maximum de gens puissent s'exprimer. J'ai eu une expérience douloureuse dans le débat que j'ai animé ce matin, où j'ai été très méchant avec certaines personnes, mais d'autres ont parlé trop longtemps.
Une question extrêmement courte. D'abord, merci pour les interventions. J'aimerais avoir
l'avis. Vous pouvez vous présenter.
Pardon, Emmanuel Henry à Lyon. J'aimerais avoir l'avis de M. Laurent sur le rôle du politique dans le laisser-faire sur ce décloisonnement du politique mondial.
Oui, Jacques Toledano. Je voulais poser la question, M. Orléans, concernant le dilemme de la liquidité d'après Keynes. Est-ce qu'on sait actuellement, dans un système qui se mondialise, parce qu'il y a une chose quand même assez intéressante de savoir, c'est que la finance s'est mondialisée, mais ce n'est pas évident que l'économie réelle se soit mondialisée. Mais le problème est, imaginons que les deux se mondialisent, est-ce qu'on a une idée de la tolérance entre le volume d'une part de l'économie réelle et ce que le système peut supporter avec l'économie, j'allais dire, immatérielle ou financière? Est-ce que avec la libération actuelle, c'est que l'économie réelle, on la contrôle, il y a des règles, mais ce n'est pas évident, dire même les rapports sociaux, les syndicats, négocier les salaires, bon, les prises de... Mais dans l'économie financière, d'après Rocard, après la Première Guerre mondiale, entre l'économie réelle et l'ensemble des liquidités de finances, était le rapport de 1, 2, 3. Et actuellement, on serait passé, paraît-il, le 1 à 50. Qui contrôle les 49 ? Ce qui veut dire que ceux qui ont mis en place ce système et qui ont, voilà, 2 ans et demi, 3 ans, avaient estimé la crise ne serait qu'à 50 milliards de dollars, on est à 4 000 milliards de toxiques et on n'est pas sûr qu'on soit arrivé au bout. Alors, est-ce qu'il y a des études concernant les tolérances entre ces deux mouvements ?
Donc je réponds rapidement. Évidemment, le politique a joué un rôle considérable. Puisque, par exemple, si on prend simplement le cas de la France, on sait comment c'est venu essentiellement des instances. La libéralisation financière est venue essentiellement des instances politiques. En l'occurrence, le gouvernement Bérégovois. Donc le rôle du politique est assez central. Et quand d'ailleurs on pense à ce capitalisme financiarisé, donc qui suit le capitalisme des Trente Glorieuses, les dates, c'est la fin des années 70-80, c'est-à-dire aussi Reagan et Thatcher en même temps que la lutte contre l'inflation. Donc c'est toujours mêlé étroitement, l'un et l'autre sont toujours mêlés étroitement. C'est un des... C'est évidemment fondamental. Les deux vont de pair. On voit encore même dans la période... présente comment toutes les questions de régulation venaient aussi que les régulateurs avaient exactement les mêmes idées que les régulés, donc ils n'avaient pas un point de vue qui était véritablement extérieur. On peut dire que c'est toute une idéologie, pas du tout forcément dans un sens négatif, c'est une conception du monde global qui a été mise en cause. Sur la mondialisation, c'est vrai que on peut dire qu'il y a des degrés relatifs de mondialisation et que c'est en matière financière qu'elle s'est le plus développée. C'est tout à fait vrai, peut-être parce que justement elle correspond à cette idée d'abstraction de la valeur et donc qu'elle a eu beaucoup plus de facilité, comme vous le sentez bien, que les phénomènes réels à se développer. D'autre part, même à l'intérieur des économies, vous donniez ces chiffres qui sont tout à fait expressifs du développement de la finance. Alors comment vous dites elles sont contrôlées ? Elles sont contrôlées ou elles ne sont pas contrôlées. Enfin, elles sont contrôlées par le système financier. Non, alors il n'y a pas forcément que les actionnaires, mais si vous voulez, il y a des chaînes. Si vous prenez par exemple un titre, là, les crédits fameux titrisés, ils peuvent passer dans une chaîne de main. Donc pour un euro au début de crédit qui est donné à un vrai agent, à un vrai ménage, ça peut donner lieu à plein d'engagements. Voyez, donc c'est pour ça que ça se multiplie, mais c'est tout à fait significatif. Pour moi, le chiffre le plus fort, c'est dans Alternative Eco que je l'ai trouvé, un moment de pub, c'est la part du profit approprié par les banques américaines dans le profit américain. 40% du profit total des États-Unis et va aux banques, qui correspond à peu près à 5% de l'emploi salarié. Donc vous avez là...
Je me permets de dire que notre hors-série spéciale sur la crise est en vente à la librairie.
C'était le bon moment.
Je suis quand même venu pour ça aussi.
Donc là, vous vous rendez compte de la différence, et donc on voit bien, mais c'est naturel, parce que au fond, c'est un peu comme la question des avocats aux États-Unis, c'est que la finance, c'est un peu comme les avocats, c'est eux qui contrôlent les médiations essentielles, les droits de propriété en l'occurrence.
On peut observer, si je peux me permettre un complément, mais je parle sous le contrôle d'André Orléans, c'est que une finance qui était relativement cloisonnée n'a pas empêché un développement important des échanges de biens et de services. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un assemblage parfait entre... La libéralisation de la finance n'est pas une condition de la lutte contre... par exemple, un protectionnisme qu'on ne jugerait pas souhaitable. Ce n'est pas parce qu'on va cloisonner la finance que les médicaments très utiles qu'on peut inventer contre telle ou telle maladie ne peuvent pas être vendus partout dans le monde, ou qu'on ne peut pas acheter les biens d'équipement produits par tel autre pays qu'on n'est pas capable de produire nous-mêmes. Bon, la question de savoir si on doit vendre de l'eau minérale française en Thaïlande est une question que je laisse à l'intelligence de chacun.
Il me semble qu'en effet, c'est important, et vous avez vu que c'était au cœur de mon exposé, de mettre la différence sur la concurrence financière et la concurrence sur les biens. Je laisse encore la question qui est encore différente de la concurrence salariale. Là, je parle simplement de la concurrence sur les biens. Mais c'est vrai, comme vient au fond de le dire Philippe, c'est que c'est très, très différent. Il n'y a aucune raison. On peut avoir une économie où il y a beaucoup de concurrence sur les biens sans qu'on libéralise la finance, parce que la finance traite de toute autre chose. Elle a un tout autre niveau. Financer les droits de propriété, c'est penser à un type de capitalisme très particulier. Donc les deux doivent être dissociés. À mon avis, d'ailleurs, au fond, ce que j'ai dit, c'est que la manière dont on rapproche l'un par rapport à l'autre est problématique. Les marchés de biens et les marchés financiers sont très différents. Par exemple, sur des marchés de biens, vous avez des offreurs et des vendeurs. Donc vous comprenez qu'il y a un problème, que ça ne peut pas aller trop dans un sens. C'est comme s'il y a deux personnes qui tirent une corde de chacun des côtés. Sur un marché financier, il n'y a pas ça. Tout le monde est à la fois acheteur. Sur les marchés secondaires, tout le monde est à la fois acheteur et vendeur. Des fois, vous êtes acheteur quand c'est haut. Et donc vous voyez bien que la structure, je dirais, sociologique, le contenu des marchés financiers est très différent des marchés de biens. Je n'ai pas répondu sur la question de la tempérance parce que, je crois que c'est, à mon sens, je ne pense pas qu'il y ait une réponse en termes de niveau. Si vous voulez, c'est plutôt analyser comment ce que j'ai dit, les systèmes de prix, comment ça se déstabilise, est-ce que c'est interconnecté. Mais je ne suis pas sûr que ça soit relié exactement à une proportion, par exemple. Je ne sais pas, vraiment, je n'ai pas de réponse.
Il y avait un centaume de mains dans les premiers rangs. Je ne sais pas exactement qui l'a levé en premier. Mais on va faire un petit tour de micro par ici.
Moi, ma question, elle était un peu liée au sous-titre, enfin, à l'avenir de la démocratie dans tout ça, parce que j'ai l'impression que le cloisonnement ne mène pas forcément à la démocratie. Enfin, parce que ça peut être simplement un tête-à-tête entre quelques banquiers et des directions d'entreprise. Inversement, j'avais entendu quelqu'un que André Orléans connaît bien, qui est Michel Aglietta, parler beaucoup des fonds de pension et de l'intervention au niveau, disons, du contrôle de l'épargne et des capitaux, et lié aux questions des retraites. Et donc, et je pense qu'il voyait par là une possibilité d'avoir des investissements, des actionnaires qui aient plus le souci du long terme que le court terme, et qui n'est pas forcément aussi cloisonné que ce que tu as dit. Voilà. Donc, c'est un peu ça ma question.
Oui. Je réponds tout de suite. Oui, parfaitement exact sur tous les domaines. Donc, premièrement, évidemment, ce serait vraiment absurde de penser que s'il suffirait qu'il y ait du cloisonnement pour la démocratie, c'est des choses très différentes. Simplement, je voulais noter qu'il y avait quand même une espèce de lien à propos de cette conception des valeurs. Le fait que au fond, on pourrait dire à contrario que le fait qu'il y ait cette homogénéisation de la valeur mondiale est quand même un poids très, très pesant et qui empêche, surtout au niveau du capital mondial, qui est très centralisé, très concentré par rapport à des salariats nationaux très dispersés. Donc c'est vraiment un poids, une force qu'il faudrait pouvoir contourner. Mais évidemment, il n'y a pas d'automaticité d'aucune sorte. Ma réflexion n'est pas du tout de ce type-là. Pour la thèse de Michel Aglietta, tout à fait, ce n'est pas du tout la même chose. Oui, on est bien d'accord. Donc il y a Michel qui est un ami, etc. De temps en temps, on a des désaccords. désaccord. Et en effet, là, c'est un désaccord, c'est une autre perspective. Je lui demanderai, donc, que Michel est un esprit très, très fin, donc ses arguments sont à entendre. Donc c'est vrai qu'il a une idée de collectivation, au fond, de socialisation de la propriété du capital à travers les fonds de pension. C'est pas absurde. Théoriquement, je n'y crois pas trop dès lors qu'on reste dans le système financier concurrentiel. Parce que, au fond, ce qui se passe, ça a quand même une logique. Que ces fonds de pension ne soient pas à long terme et soient à court terme avec tous les problèmes qu'on a vus pour ceux qui ont mis leur retraite là-dedans. Je crois à mon sens, il y a une contradiction. Donc, son dernier livre, hein, Crise et rénovation de la finance, c'est là la rénovation. Oui, c'est deux choses tout à fait différentes et on a un désaccord. Mais...
Sans me mêler des désaccords entre André Orléans et Michel Aglietta, bon, je reste à ma place. Une pierre qu'on pourrait ajouter dans le jardin de Michel Aglietta, c'est que de fait, nous qui vivons dans un pays où parmi les plus grandes banques, nous avons quand même des banques coopératives. Et on a bien vu que c'était parmi elles, celle qui avait quand même mis le plus la main dans le pot de confiture. Donc, il prouve bien que la question de la gouvernance d'une entreprise ne suffit pas forcément à régler la question de la régulation d'ensemble du système. Je veux dire, si vous avez une mauvaise régulation d'ensemble du système, les acteurs seront tentés effectivement d'en profiter.
Et il me semble, si vous voulez, sans que c'est vraiment des hypothèses, d'autant que bon, il me semble que justement ce point, c'est-à-dire que cette propension à se focaliser sur le rendement et donc le rendement boursier, donc souvent du rendement à court terme, est vraiment dans la logique du marché financier. C'est ça mon point. C'est une production de la logique du marché financier qui fait qu'il est, comme je dis quelquefois, auto-référentiel, c'est-à-dire qu'on s'intéresse plus au prix demain qu'à ce qui sera à long terme, parce que c'est la règle du jeu. Il me semble qu'il faut lui donner des contre-forces. Et je crois peu, moi, aux contre-forces de type régulation, disons les agences de notation. Je pense que c'est dans la nature même du capital financier d'être comme ça. Donc la seule, c'est pour ça que le cloisonnement a pour moi cet intérêt un peu esthétique, c'est que d'une certaine manière, il détruit un peu la puissance du capital, parce que la puissance du capital, c'est sa flexibilité absolue. Donc ça a tous ses effets, de la même manière que plus on va vers l'abstraction, plus on a de l'instabilité, plus on a une espèce de marché parfait, mais avec cette idée qu'il n'y a que le rendement, plus on va dans l'autre sens et plus on rétablit un peu de stabilité, un peu d'autres valeurs, etc. C'est un peu ça le
mécanisme. Je peux me permettre une petite blague, disons que les 3A, en fait, ça fonctionne bien pour les andouillettes. Voilà.
Je voudrais poser une question fondamentale, qui est assez difficile à cerner, mais je vais essayer de le faire en très peu de mots. Vous nous avez expliqué ce que nous sentons bien, les pièges dans lesquels nous sommes à l'heure actuelle. Hein. Mais depuis la Révolution, nous avons mis en marche un mouvement économique, politique et philosophique qui a permis un progrès énorme avec des techniques qui sont là, avec les nanos par exemple, qui sont là à notre porte et qui sont le piège dans lequel nous sommes à l'heure actuelle pour l'émancipation humaine. Hein, je parle. Or, ce progrès, on ne peut pas le rejeter, c'est que ce sont les effets qu'on doit rejeter et trouver une autre solution pour pouvoir en bénéficier. Or, vous nous avez donné quelques stratégie, enfin, vous avez fait apparaître toutes les parties négatives et puis des stratégies de régulation pour essayer d'en sortir. Mais s'il n'y a pas d'autre but fondamental, c'est-à-dire un nouveau projet de société avec une nouvelle éthique, hein, nous n'en sortirons pas, nous ne dépasserons pas le capitalisme et on sera toujours récupérés. Et il y aura toujours les femmes qui sont exploitées. Enfin, je dis les femmes parce que une intervenante a bien souligné l'affaire et d'autres choses comme ça. Nous n'en sortirons pas. Donc, personne ne pense à produire un nouveau projet de société avec des éthiques nouvelles. Voilà. Je vous pose la question, surtout André Orléans.
En fait, Je voudrais vous dire que si on regarde comment s'est construite la Révolution française s'est construite sur le marché. Et je crois que c'est une idée folle que de penser qu'on va trouver une autre société, des lendemains qui chantent et qui se feront hors du marché. Pour les raisons que j'ai dit, c'est que moi, ce que je pense être quelque chose qui vaut la peine de se battre, c'est de se battre pour que chacun puisse mener la vie qui lui convient. Et si vous voulez vous battre pour que chacun puisse mener la vie qui lui convient, le marché est un de ses instruments. C'est un lieu où il aura de l'initiative. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de le faire marcher, de le démocratiser, de faire que chacun puisse y participer, de lutter contre toutes les inégalités d'information, tout ce qu'on peut trouver, mais ne pas croire que la solution est ailleurs. Elle va être dans plus d'institutions, il faut aussi prendre les gens comme ils sont, le monde comme il est, et pas essayer de changer les gens. Ça aussi, ça nous a amené un 20e siècle absolument catastrophique. Donc restons modestes, prenons les gens avec leurs qualités et leurs défauts, et essayons d'améliorer les biens premiers, essayons d'améliorer les biens collectifs et de faire fonctionner le marché avec ce qu'il sait faire. Mais on ne créera pas, je ne pense pas, ou alors on va créer quelque chose qui sera bien pire que ce qu'on peut faire avec ce qu'on a en essayant de... la démocratie, c'est une lutte permanente. Il faut tout le temps se battre pour que tout le monde ait accès à l'information, pour que tout le monde puisse s'exprimer, pour que tout le monde ait les mêmes droits. Il y a de quoi faire avec ça. Et je pense que ça suffit à notre peine.
Bon, moi, pour amener ma question, je vais essayer de faire le parallèle avec ce qui se passe sur une île. Tout le monde a entendu parler de la Martinique, l'affaire avec les béquets. C'est en fait le capitalisme et la démocratie qui est en cause. On a parlé de système féodal qui a été remplacé par une économie de marché. Le problème, c'est que la Martinique a échappé à la Révolution française. Il y a eu l'esclavage qui restait pendant quelque temps. Et une famille a gardé le pouvoir sur la totalité de l'île. Ce qui fait que les prix ont continué de flamber. Le capital est entre les mains des mêmes personnes. Et donc la partie de la population, qui était une population noire à l'époque, s'est retrouvée, même au SMIC à l'heure actuelle, encore sous une forme d'esclavage, puisque pour acheter les produits alimentaires, elle est obligée de payer quasiment 2,5 fois le prix de ce que nous, on peut payer ici. Tout ça parce qu'en fait, le capitalisme, le capital, il est entre les mains de quelques personnes. Alors pour venir à ce qui se passe au niveau mondial, la question, elle est un peu la même. Le capital, il est où? Est-ce qu'il n'est pas entre les mains de quelques personnes qui nous manipulent comme des marionnettes? Alors bien sûr qu'ils ont intérêt à ce qu'on soit prospère et à ce qu'on avance le plus vite possible pour qu'eux puissent en tirer aussi des bénéfices. C'est un peu le cas des subprimes. C'est-à-dire qu'on a poussé les gens à un moment donné à dire « Vous ne pouvez plus acheter votre bien immobilier. » Oh ben, c'est pas grave, au lieu d'emprunter sur 10 ans, emprunter sur 30 ans. On n'en avait rien à faire que les gens ils se cassent la figure, qu'ils divorcent, qu'ils perdent leur boulot, même s'ils ne pouvaient pas payer, c'était pas grave. Pourvu qu'on puisse faire du fric sur leur dos. Voilà, la question, le problème, c'est, comme je vous dis, la démocratie peut fonctionner que si le capital est réparti équitablement. Et aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être le cas.
On répond. Oui, on est entièrement d'accord. J'ajouterais d'ailleurs pour aller donc la question c'est en effet celle de, comme je disais, de cette puissance du capital qui est extrême aujourd'hui. Et donc l'analyse que je vous proposais, c'était de penser qu'une des raisons de cette puissance, c'est justement la liquidité internationale. Parce que les droits de propriété, comme vous le savez, ils ont pris des formes très diverses. En fait, la spécificité du capitalisme moderne, c'est que les droits de propriété sont gérés à travers des marchés financiers. Ce qui est une révolution totale, parce qu'au départ, dans un système qui ressemblait par exemple au système antillais ou autre, il y avait des propriétaires majoritaires du capital qui ne s'amusaient pas du tout à le jouer sur des marchés. Donc le capital était détenu par un certain nombre de liaisons, d'intermédiaires, etc. Mais il ne circulait pas. Les marchés avaient peu d'importance. Donc c'est pour ça qu'on est toujours dans un système capitaliste. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que la gestion des droits de propriété, au lieu d'être dans les mains d'intermédiaires, de banques, comme dans le capitalisme rhénan, de technocratie, comme en France, ou bien de technocratie publique, ou bien de technocratie publique privée, un peu à la manière des États-Unis, je résume tout ça de manière très grossière, aujourd'hui, c'est à travers les marchés financiers que ça se passe, et les acteurs dominants, c'est ceux qui concentrent le capital, c'est-à-dire les fonds de pension et les fonds de mutuelle. Donc on a bien la même analyse. Et à tel point d'ailleurs que sa puissance, elle se voit dans les taux de rendement qui sont exigés, puisque le point qui montre un peu le déséquilibre dans lequel nous sommes, qui a eu pour expression l'endettement des ménages américains du fait des basses pressions salariales, c'est l'exigence de rentabilité. L'exigence de rentabilité qu'on nomme comme ça à 15% et qui est souvent bien supérieure à 15% a été extrême. Et là, il y a eu donc un passage ici de la valeur produite du côté du capital. Donc on est bien d'accord. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est des taux complets, c'est vraiment des taux extrêmes. Et donc, ce que j'essaye de dire, donc en effet, on peut imaginer tas de politiques, mais en tout cas, cette idée de cloisonnement, justement, est une des manières de rendre les choses moins simples, de faire que ça soit moins liquide, donc que la possibilité d'arbitrage se fasse moins. Et donc, d'une certaine manière, c'est aussi cette question de la puissance du capital qui est derrière le marché financier, parce qu'aujourd'hui, son lieu d'expression, c'est le marché financier. Donc j'ai l'impression que ça se rejoigne.
Vous pouvez monter un peu tout en haut, là. Il y a des mains qui sont levées depuis très longtemps tout en haut.
Bonsoir. Cynthia Saloum de l'École des hautes études à Paris. On a entendu parler ce soir de régulation, de gouvernance, mais il y a un mot qui me venait à l'esprit et j'aimerais bien avoir vos réactions sur cette notion-là. C'est la souveraineté. Nous avons entendu parler de démocratie à une échelle planétaire, une échelle mondiale. Que pensez-vous du rôle de l'État et de la question de la souveraineté en ce qui concerne l'instauration de cette démocratie qui va permettre justement qu'on continue dans un système capitaliste tel qu'il est à pouvoir avancer et améliorer un petit peu les choses? Merci.
C'est vrai qu'on n'a pas abordé frontalement, même si moi je l'ai entendu en filigrane dans toute l'intervention de Laurence Fontaine, la question du rapport de l'État au marché et à la société civile au sens où on l'entendait au XVIIIe siècle. Je veux dire. Vous savez, il y a ce poème de Pouchkine, du dialogue de l'argent, de l'or et de l'acier, où l'acier représente le pouvoir, la force du politique, des canons, du fusil. Et l'or dit « tout est à moi », l'acier dit « tout est à moi ». Et l'or répond « je peux tout acheter », et l'acier dit « je peux tout prendre ». Bon. Et c'est vrai que l'un des bienfaits du capitalisme démocratique, c'est qu'une partie des régulations qui sont liées par l'accaparement brutal par la puissance, ce que tu disais tout à l'heure sur le féodal qui fixe son prix, c'est bien ça, va être substitué par une relation d'échange qui effectivement présuppose l'égalité des parties chère au code civil. Bon, alors, on sait bien, je crois que personne n'est naïf à cette tribune, on sait bien que l'inégalité est au cœur de la dynamique du capitalisme, et on sait bien justement, d'ailleurs c'est à ça que sert le droit du travail, c'est à reconnaître intrinsèquement dans un espace du droit l'inégalité structurelle des parties qui est celle qui s'établit dans la relation salariale. Puisque précisément, contrairement à ce que pense Mme Laurence Parisot, la relation salariale n'est pas une relation où on peut se séparer à l'amiable. On se sépare toujours dans une situation conflictuelle, précisément parce qu'il y en a un qui a plus de pouvoir que l'autre. Bon. Donc on est d'accord là-dessus. Ce qu'on dit simplement, c'est que le marché est aussi un facteur d'émancipation possible des individus, d'expression de la liberté, et cette expression de la liberté, finalement, c'est quand même ce qui est au cœur, au fond, de la démocratie politique. Et d'ailleurs, tous les régimes qui sont des régimes totalitaires, à toutes les époques, ont marquer leur puissance en interdisant soit à toute la population, soit à certaines catégories, le droit d'exercer certaines professions. Il a fallu attendre la Révolution française en France pour que les Juifs puissent accéder à l'immense majorité des professions, alors qu'ils étaient cantonnés jusque-là dans simplement certaines activités, puisque la citoyenneté française ne leur était pas reconnue par l'Ancien Régime. Et de la même manière, dans les régimes totalitaires qu'on a connus dans l'espace soviétique, je veux dire, une des marques du pouvoir de l'État sur la société était bien d'interdire toute possibilité à chacun de gagner sa vie par ses propres moyens, par lui-même. Et c'est pour ça que la création d'entreprise, la liberté d'entreprendre, doit être étendue au nom des valeurs démocratiques. Et ce qui fait problème précisément dans notre société, c'est qu'il y a une inégalité extrêmement forte, précisément dans les conditions d'exercice de cette liberté. C'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt du microcrédit. Alors là encore, il ne faut pas être naïf. Dans une société où il y a 90% de la population active qui est salariée, c'est notamment le cas dans les sociétés les plus développées comme les États-Unis ou la Suède. Et c'est clair que les enjeux de la démocratisation de l'économie, par exemple, ils passent d'abord au sein de l'entreprise aujourd'hui. Mais ça n'aboutit pas à ne pas se poser les questions qu'on a soulevées juste auparavant.
Peut-être, si on a le temps, oui. Je trouve. Oui, je pense que c'est important et que, en effet, il y a eu un affaiblissement, c'est une évidence de le dire, des souverainetés nationales, et que cet affaiblissement des souverainetés nationales va de pair et s'articule avec cette formation du capitalisme mondial, c'est-à-dire cette idée que c'est au niveau mondial que les choses se passent, que les rendements se définissent, avec une idéologie libérale qui est une idéologie de l'ensemble des nations. Donc, en effet, je crois que c'est très, très lié. Alors, est-ce que la seule voie de retour consisterait en effet à ce que la souveraineté politique à nouveau s'exprime, et c'est au fond fonctionnellement très important, parce que j'ai juste dit en passant, mais la question de la régulation, à mon sens, c'est là. On peut parler autant de régulation, mais pour qu'il faut qu'il y ait la régulation, il faut qu'il y ait des gens qui régulent avec des intérêts de régulation qui puissent être opposés aux intérêts des régulés. Mais tant que les intérêts des régulateurs sont les mêmes que les intérêts de régulés, on a beau mettre de la régulation, on n'obtiendra pas ce qu'on a en tête en régulation. Or, c'est ça la question. Comment on crée des contrôleurs. Alors, jadis, c'était en effet fondé, encastré dans la question de la souveraineté, de l'intérêt public et de la souveraineté nationale. Et de ce point de vue-là, je trouve que même aujourd'hui, pour moi, ça reste une question. Je trouve qu'il y a un problème tant qu'on n'arrive pas à pouvoir trouver des acteurs qui aient ces intérêts publics de manière... Et que ça pose un problème. Donc, en effet. Mais alors, est-ce que c'est la seule solution? Je ne pense pas que les sciences sociales, et en particulier l'économie, aient des grandes capacités de prévision. Mais en tout cas, vous avez raison, dans le sens où c'est là, il y a un problème de savoir quelle est la nature des contre-pouvoirs qui peuvent être posés. Et donc, la souveraineté en est-elle l'exemple traditionnel?
Tant que pour être chef du département du Trésor des États-Unis, il faudra avoir passé 5 ans chez Goldman Sachs et 10 ans après avoir quitté le poste, ce sera quand même un petit problème.
Alors, on aura du mal à réguler. Oui.
La réponse, c'est qu'ils sont beaucoup plus compétents que les autres, certes, mais ça pose quand même un petit problème de démocratie.
Oui, c'est pas ça qu'il faut répondre, en effet. Il faut...
Tout au fond, je suis désolé, mais il y a des gens qui agitent les mains désespérément. La dame, l'avant-dernier rang, là, voilà. Ah, ils ont du mal à monter les escaliers. Hein. Ah là là. La démocratie, ça passe par le fait de monter les escaliers aussi.
Pardon pour Laurence Fontaine, j'ai deux questions pour André Orléans. Le premier, c'est que vous avez donné l'exemple du marché de l'immobilier pour expliquer l'augmentation des prix et surtout le lien entre l'augmentation de l'offre et celle de la demande. Or, comment expliquer que tout d'un coup, les prix se mettent à augmenter? Vous n'expliquez pas le mécanisme qui fait que tout d'un coup, il y a bien un des premiers prix qui s'est bien augmenté. Donc comment les prix se mettent-ils à augmenter? Et la deuxième question concerne le cloisonnement. Vous avez expliqué que Le cloisonnement, c'était le cœur de la réponse politique après la crise de 29. En particulier, aujourd'hui, ça permettrait de lutter contre l'interconnexion mondialisée. Est-ce que par cloisonnement des marchés, vous entendez, par exemple, la séparation des métiers de la banque? En 1933, il y a eu le Glass-Steagall Act qui a séparé les métiers de la banque entre les banques de dépôt et les banques d'investissement. Aux États-Unis, en 1984, en France, on a eu la loi bancaire qui a instauré le principe d'universalité et qui donc décloisonnait typiquement les métiers de la banque. Donc est-ce que ce cloisonnement dont vous parlez des marchés passe par la séparation des métiers de la banque?
Alors, sur cette deuxième question, il ne faut pas que je vous cache, surtout qu'on est entre nous, c'est que c'est plutôt un programme de recherche. Et si vous voulez, je ne suis pas là avec un truc clé en main en vous disant il faut cloisonner. D'autant plus que j'ai peur qu'on ne me demande pas à moi et que ça soit un temps un peu perdu et que ce soit d'autres qui le font et autrement. Mais si vous voulez, ce qui m'importe, moi, c'est surtout l'idée du principe. Mais ce que vous dites en est pour moi, évidemment, les illustrations auxquelles je pense spontanément. C'était d'une part cette question de l'immobilier, des crédits à la consommation, et en effet, le Glass-Steagall Act, évidemment. Tout est possible, c'est ouvert, ça me semble être le principe, le principe théorique, conceptuel, c'est stopper la liquidité, parce que la liquidité est la source des bulles spéculatives et de l'instabilité. Ça peut être aussi d'ailleurs, évidemment, le contrôle des mouvements de capitaux à court terme, le contrôle des mouvements de capitaux internationaux aussi, qui est une manière de cloisonner spatialement l'espace. Alors, sur le premier point, votre question est excellente. Je dirais qu'en fait, à mon sens, il y a un processus d'essai-erreur. C'est-à-dire que la finance, au fond, elle fonctionne comme ça. On ne sait pas très bien quel va être le prochain marché qui va être contaminé. Il n'y a pas un premier prix. C'est que les financiers sont à l'affût de ces augmentations, c'est leur métier. Donc, dès qu'il y a des poches comme ça de rentabilité potentielle qui naissent, par exemple les matières premières ces derniers temps, hop, ils y vont. Donc il y a un aspect, je dirais, contingent dans les premières augmentations. Simplement, elles sont sélectionnées par un corps doctrinaire et un corps professionnel qui a pour rôle de les sélectionner. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc il n'y a pas en fait, je dirais pas, c'est pas un modèle dans lequel il y aurait un acteur qui pourrait manipuler la conscience des acteurs, etc. Non, en fait c'est un processus de sélection aléatoire et le marché à un moment donné il prend ce qui lui donne sa prospérité, c'est-à-dire le fait que ça augmente. Et vous savez que quand les prix augmentent, c'est une richesse monumentale qui est créée, c'est des flots, c'est ce qu'on a vu. Ces augmentations des prix, ça attire évidemment beaucoup de gens parce que c'est des trillions de dollars qui sont créés, comme ils sont détruits d'ailleurs en ce moment.
La question de savoir à quel moment ça naît est effectivement une question par nature incertaine, précisément parce que l'équilibre du marché de manière instantanée suppose toujours que les anticipations d'une moitié du marché soient à l'inverse de l'anticipation de l'autre moitié du marché. C'est-à-dire qu'il y a autant de gens qui pensent qu'ils font une bonne affaire en vendant que de gens qui pensent qu'ils font une bonne affaire en achetant sur des marchés fermés comme les marchés boursiers ou les marchés des actifs à court terme, à partir du moment où il n'y a pas brusquement 100 000 immeubles qui arrivent sur le marché le lendemain, aussitôt que les cours ont monté, ou 100 000 maisons. Donc, de fait, ensuite, une fois qu'il y a un mouvement qui s'est enclenché, il devient autoréalisateur et mimétique, puisque la preuve que j'ai eu raison, c'est que j'ai acheté hier, et puisque ça a monté, il faut que je continue à acheter demain.
D'ailleurs, de ce point de vue-là, si on prend les prêts, on regarde un certain nombre d'acteurs immobiliers, on voit qu'ils étaient extrêmement réticents à entrer dans des prêts très très risqués, mais qu'au bout de 2-3 ans, avoir des autres faire des profits parce que les prix n'arrêtaient pas d'augmenter, ils ont dit bah, « pourquoi pas nous ?» Et on comprend que la propension soit très... C'est ça le mécanisme de marché essentiellement. Imaginez quelqu'un qui serait gestionnaire de portefeuille pendant la bulle Internet et qui dirait « moi, j'y crois pas à la bulle Internet, c'est pas sérieux ». Il aurait raison, mais il change de métier parce qu'il aurait plus un seul client au moment où il y a des gens qui font du 20%. Donc il y a cette puissance à ce moment-là mimétique qui joue. Alors, l'autre chose auquel ça fait penser, c'est qu'on conteste cette analyse, mais on me dit qu'il y a un retournement. Donc il y a quand même des forces, des contre-forces qui jouent, puisque ça s'est retourné. C'est exact, il y a quand même des contre-forces, mais ces contre-forces, elles jouent sur des périodes de temps tellement longues que le système en est complètement déstabilisé. Et ça ne peut pas être une réponse, ça ne peut pas être une justification, le fait que le marché immobilier se soit retourné en 2006. Il s'est retourné, d'accord, il y a une certaine correction, mais en créant la bulle.
Oui, mais vraiment, une minute, parce qu'on vient de me faire passer un petit papier comme quoi il devait se terminer, parce que le prochain débat est transmis en direct. Mais alors, on a encore 3 minutes, donc si vous voulez,
oui,
chaque... allez-y.
Oui, j'ai bien entendu.
Allez-y très rapidement.
Donc on va être très rapide. À la lumière de ce qu'a dit Laurence Fontaine, on a vu que dans l'histoire, des forces sociales liées au féodalisme ont laissé petit à petit la place à une économie bourgeoise qui contrôlait déjà économiquement tout et qui a participé avec l'ensemble de la population à la mise en place d'une révolution. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une démocratie représentative qui date de cette époque. Si on regarde ce que dit André Orléans, qu'on a une bureaucratie, une couche sociale supplémentaire qui s'est mise en place à la tête des entreprises, une nomenclatura, à laquelle nos politiques sont intimement liées, on peut penser que la crise, hein, c'est aussi une crise finalement de passage de pouvoir d'une couche sociale à une autre, que dans cette nouvelle couche sociale, c'est vrai que la démocratie représentative, c'est peut-être pas le mode de représentation adapté, puisque nos politiques font partie de cette bureaucratie. C'est-à-dire, ils sont un petit peu partout, dans tous les CA des administrations, de l'hôpital, des régies. Donc on a une force très diffuse qu'on n'arrive pas à contrôler, nous, en tant qu'association de quartier ou citoyens. Et donc c'est intéressant parce que, maintenant je vais poser ma question, il me semble qu'on observe tout simplement le passage d'un mode de pouvoir à un autre, et c'est pas trop la peine qu'on réfléchisse à quelle forme de démocratie va se mettre en place, parce qu'elle va se mettre en place sans qu'on le choisisse forcément. Qu'est-ce que vous en pensez?
Juste la deuxième question.
Oui, Alain Dontaine. Par rapport à l'intervention de Laurence Fontaine, vous avez expliqué plusieurs fois que, du point de vue historique, le marché était né avant le capitalisme. Vous avez également expliqué qu'ils allaient de pair. Donc, ce faisant, vous avez souligné qu'ils n'étaient pas identiques. Et pourtant, à la suite, tout au long de votre exposé, à chaque fois que vous voulez parler du capitalisme, vous utilisez le terme de marché. Est-ce qu'il n'y a pas là une certaine confusion? Et très rapidement, si vous permettez, pour André Orléans, j'entends bien votre souci et votre proposition de cloisonnement des marchés, mais justement, c'était le titre, dans la crise du capitalisme, est-ce que cette fois-ci, on ne pourrait pas penser à aller un peu plus loin, et notamment imaginer de nouvelles formes de contrôle, d'utilisation et d'allocation des ressources?
Très, très vite, ce n'est pas une confusion. Pour moi, l'économie de marché et le capitalisme, c'est la même chose. Le capitalisme est très divers, il évolue. Vous avez eu un capitalisme marchand au XVIe siècle, un capitalisme industriel, vous avez maintenant un capitalisme financier. Tous les systèmes de marché sont des échanges de produits, mais il y a aussi du capital derrière. Et donc, faire cette coupure, je trouve qu'elle ne fonctionne pas. Et en plus, chaque capitalisme est toujours coloré par les cultures. Le capitalisme japonais n'est pas tout à fait le même que celui qu'on va trouver ailleurs. Et donc, il y a eu toute une réflexion à faire autour de ces transformations du capitalisme, et je pense que c'est plus productif que de faire une coupure entre des systèmes marchands qui seraient quoi par rapport à un capitalisme qui serait né comment. Et on voit bien le capitalisme se développer comme une poche à l'intérieur d'une société aristocratique, comme on le voit se développer ou se maintenir dans des petites poches dans des sociétés socialistes contemporaines.
Juste le mot de la fin. D'abord, je sors un petit livre qui s'appelle « De l'euphorie à la panique, penser la crise financière dans 15 jours » où j'explique ça. Donc si vous voulez le relire, vous l'aurez, il y a un moment de pub. Et pour répondre à votre question de manière très brève, puisqu'on n'a plus du tout le temps, en fait, c'est pas si éloigné que ça, parce qu'au fond, le cloisonnement, le plus cloisonné, commence à ressembler beaucoup à du contrôle. Donc il y a quelque chose, à un moment, comme une solution de continuité. Et je pense que j'étais assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment.
Donc, je crois qu'un mot de conclusion, dans le débat qu'il y a entre le capitalisme et sa régulation, je veux dire, ce qui nous sauve, effectivement, c'est le combat démocratique.
J'ai une annonce à faire, pardon. Vous retrouverez Laurence Fontaine à 18h30 au Café des auteurs pour parler de son livre. Merci.